Eh bien, ouvrons nos Bibles ensemble dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. Le dimanche des Rameaux est célébré le dernier dimanche avant Pâques. Et dans le récit des Évangiles, Jésus se rend à Jérusalem avec ses disciples pour justement vivre ensemble la fête de la Pâque. Donc il entre dans Jérusalem, assis sur un petit ânon, acclamé par une foule nombreuse qui l'accueille en déposant des vêtements sur son chemin et en agitant des branches de palmiers. Et tout ceci selon la prophétie du prophète Zacharie dans Zacharie 9:9, où nous lisons « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Et le passage de Jean 12, versets 12 à 26, nous présente un récit succinct de l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Un événement qui est célébré dans certains milieux religieux, chaque dimanche des Rameaux. La foule nombreuse de gens venus pour la fête, verset 12, apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Et ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi, viens, assis sur le petit d'une ânesse. Alors le point de vue traditionnel de cet événement, c'est que c'est une reconnaissance de Jésus en tant que Messie. Il reçoit l'acclamation en tant qu'accomplissement de la prophétie du prophète Zacharie. Et la foule acclame « Hosanna ». Hosanna qui en hébreu signifie « sauve maintenant ». Donc la foule le voit comme un conquérant, le reconnaît comme roi. La plupart d'entre nous, on pense peut-être qu'il s'agissait d'un moment de joie, d'un moment de triomphe pour le Seigneur. Mais il n'en est rien. Ici, une fois de plus, combien il est important d'apprendre des choses concernant le Seigneur uniquement à travers la parole plutôt qu'à travers les traditions. Et l'évangile de Jean dissipe toute idée ou conception erronée en les replaçant et en les remplaçant avec le simple témoignage oculaire de l'apôtre Jean. Vous pouvez lire le récit dans Matthieu chapitre 21, Marc 11 et Luc 19. Et ce qui est clair, c'est que ce ne sont pas les habitants de la ville de Jérusalem qui acclament Jésus comme roi, c'est surtout les pèlerins, la foule qui était venue à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ce sont eux qui ont pris les rameaux pour les placer sur le chemin. Ce sont eux qui ont crié « Hosanna !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et le contexte est celui de la fête des tabernacles, marquée par l'attente et la venue du Messie. Et en brandissant ces rameaux rituel, comme il le fait dans le Lévitique, chapitre 23, les pèlerins chantaient le psaume 118, dont une des acclamations est reprise ici. Hosanna, sauve donc, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est le Messie tant attendu. Mais d'après le récit de Matthieu, la ville de Jérusalem était en émoi à cause de cette procession de Jésus à partir du Mont des Oliviers jusqu'aux portes de la ville de Jérusalem. Mais au lieu de se joindre à la foule et à la procession, les Juifs de Jérusalem ont demandé avec une grande suspicion, Matthieu 21, verset 10, lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et on disait « Qui est celui-ci ?» Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et dans le chapitre 12 de Jean, nous montre que même les disciples ne comprenaient pas la véritable signification et nature de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Verset 16 de Jean 12, ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vient à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y gagnez rien. Voici que tout le monde est allé après lui. » Et même les disciples étaient dans l'incompréhension. Ils étaient aux côtés de Jésus. Lorsque la foule avait tenté de le proclamer roi après qu'ils avaient nourri la multitude, ils ont vu le Seigneur rejeter l'acclamation de la foule à ce moment-là. Ici, ils le voient prêt à recevoir cette acclamation. Donc, ils sont un peu confus. Pourquoi ce changement dans l'attitude du Seigneur? Et le texte nous dit, ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais ils n'étaient pas les seuls qui étaient dans l'étonnement. Les foules rendaient témoignage que Jésus avait fait revenir à la vie un homme qui était mort depuis 4 jours. Et tous voulaient voir ce faiseur de miracles. Les pharisiens qui conspiraient contre Jésus pour le faire disparaître depuis belle lurette étaient bafoués et ne savaient plus comment procéder. Les autres récits des évangiles nous révèlent que les pharisiens craignaient la foule et ne voulaient surtout pas provoquer une émeute lors de la fête de la Pâque. Et désormais, en voyant cette foule en liesse, ils se disent entre eux, « Vous voyez, vous n'y gagnez rien. Voici que tout le monde est allé auprès de lui. » Parce que l'entrée de Jésus à Jérusalem avait contrecarré leur plan. Cela les poussait, les obligeait à surmonter leur crainte de la foule pour procéder d'une manière hâtive à leur conspiration pour le faire mourir. Une autre fausse conception de cette entrée de Jésus à Jérusalem est celle de croire que l'action ou l'acclamation de Jésus était une action spontanée. Et la manière dont on imagine souvent l'événement, c'est que lorsque Jésus apparaît assis sur un ânon, la foule se rassemble soudainement de nulle part, et commence à crier en coupant les branches de palmiers sur la route. Mais quand on lit le texte, on approfondit les 4 évangiles, il y a une toute autre dimension qui nous est présentée. Cette manifestation avait été soigneusement orchestrée par Jésus lui-même. Il est celui qui, minutieusement, initie les événements selon son calendrier, selon son emploi du temps. Il avait conclu les arrangements pour l'annon des semaines en avance lors de ses visites rapides à Jérusalem. Et c'est lors de cette même visite qu'il avait pris soin qu'une chambre haute soit louée afin de célébrer la Pâque avec ses disciples. Il savait des semaines et des mois à l'avance ce qui allait se passer et quand cela devait arriver. Jésus étant la parole vivante, c'est lui qui avait parlé par la bouche du prophète Zacharie en prédisant que le Messie viendrait assis sur le petit d'une ânesse que personne n'avait dompté. Et en entrant dans Jérusalem, Jésus s'engage sur ce chemin de sa passion, en pleine liberté, avec la lucidité du prophète qu'il est. Il vient accomplir les Écritures le concernant. Le Messie entre dans la ville, mais sur une monture peu glorieuse, symbole d'humilité, symbole de paix. Oui, Jésus est le roi, mais il est doux et humble de cœur. Et Il s'offre à l'accueil ou au refus des hommes. Mais il y avait aussi une autre prophétie que Jésus connaissait parfaitement bien. C'est une des plus remarquables prophéties de l'Ancien Testament que nous retrouvons dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Un passage qui prédit les 70 semaines, le calendrier de Dieu. Ce sont des semaines d'années. 490 ans en tout du cours de l'histoire du peuple juif. Et cette période de 490 années commence lorsque Dieu donne l'ordre de reconstruire les murailles de Jérusalem après la captivité en Babylone. Daniel 9, 25, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Donc lorsque les 483 ans se sont écoulés, loin de l'Éternel, le Messie sera mis à mort. Une référence à la mort de Christ. Et c'est précisément 483 ans après la promulgation, disant de rétablir et construire Jérusalem, jour pour jour, que Jésus entre dans Jérusalem, assis sur un ânon. Lui, le Messie, se présentant à son peuple. Il entre sous l'acclamation de la foule rassemblée. Et c'est une journée stratégique dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le Seigneur était conscient de cette prophétie et il a accompli son rôle messianique à l'heure établie. Une autre fausse conception de l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est qu'il s'agit d'une entrée triomphale. Bien sûr, l'événement avait pris la forme extérieure de triomphe, n'est-ce pas ? Des acclamations, des cris, des chants, une foule en liesse, des branches de palmiers agitées, les vêtements jetés à terre pour servir de tapis rouge. Mais ce n'était pas une entrée, une procession triomphale dans le cœur du Seigneur. Luc 19, verset 41, nous donne un aperçu poignant des sentiments du Seigneur à ce moment-là. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc clairement, pas de triomphalisme pour Jésus. Lorsqu'il voit cette ville devant lui, son cœur n'est pas rempli de joie. Ses yeux étaient remplis de larmes. Non seulement il ne pouvait pas apprécier l'acclamation de la foule, mais il pleurait et se lamente sur la dureté des cœurs des hommes. Non seulement des hommes de l'époque, mais des hommes aujourd'hui qui refusent l'annonce de la venue de la grâce de Dieu. Et bien que les pèlerins en dehors de Jérusalem célébraient son entrée, les habitants de Jérusalem ignoraient et méprisaient sa personne. Ils n'ont pas reconnu celui qui vient au nom du Seigneur. Et le résultat, c'est un terrible jugement qui tombe sur la ville. Et donc, dans ce passage, Jésus prophétise la destruction de Jérusalem et du Temple. Et 40 années plus tard, cette prophétie a été accomplie. Ainsi, en entrant à Jérusalem, afin d'accomplir les prophéties qui le concernaient, Jésus est venu en tant que roi, mais non pas selon l'attente des hommes, ni du peuple. Et une fois de plus, comme tout au long de son ministère, le Seigneur bouleverse les conceptions et attentes du peuple juif concernant la venue de la personne même du Messie. Et donc, en s'approchant de la ville, il ne vient pas assis sur un puissant cheval de guerre, comme l'aurait fait un Alexandre le Grand ou tout autre conquérant. Il vient sur un ânon, symbole de paix et d'humilité. Son sceptre ne sera rien de plus qu'un roseau brisé. Sa seule couronne sera une couronne d'épines. Son trône sera une croix sanglante. Alors, que nous inspire cette scène? Qu'est-ce que cela nous apprend? Tout d'abord, que les apparences extérieures ne signifient rien pour Dieu, lui qui sonde les cœurs. Dieu n'est pas concerné par des symboles de puissance, de gloire, mais par les symboles que sont l'amour et la pureté. Il n'a que faire des couronnes d'or et des vêtements royaux de pourpre s'il couvre un cœur souillé qui n'est pas soumis au roi des rois. Matthieu 21, verset 10, met en lumière ce contraste entre les pèlerins et les disciples qui acclamaient Jésus et les gens de la ville. Très sceptiques, eux qui ne voyaient qu'en lui un Galiléen, un fauteur de troubles. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et on disait « Qui est celui-ci ? » Et les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Vous voyez, le récit biblique s'attache vraiment à dessiner, dès l'entrée à Jérusalem, les prémices de l'affrontement entre Jésus et la ville peuplée de personnes qui va le rejeter. La foule, elle, en extase, l'acclamation de la foule, les gestes qui l'accompagnent, c'est pour faciliter la marche du roi. Et on met ses vêtements, ses rameaux pour dérouler ce tapis en son honneur. Tous attendent quoi ? Le miracle de la délivrance. Ils attendent un vrai roi guerrier, fort et brave, qui sache manier l'épée, soit dans sans pitié pour ceux qui sont les adversaires de Dieu. Et Jésus, lui, c'est le roi rêvé, parce que non seulement il nourrit les foules, il guérit et il enseigne. Mais déjà, après les cris de joie lancés dans les rues, « Hosanna pour le fils de David », voilà qu'on s'interroge déjà sur son identité. Il arrive sur un âne, sans armure, sans fanfare, sans parole. Bizarre. Bizarre. Qui est cet homme? Alors, on est amené à dire, de proche en proche, qu'il ne s'agit en fait que d'un prophète. Le prophète Jésus, qui plus est, un prophète venant d'une bourgade inconnue de Nazareth, un bled paumé là-bas en Galilée. Donc vous voyez, de Messie à roi, fils de David, puis fils de David à prophète, et bientôt la foule déçue, manipulée, quelques heures plus tard, vont demander la mort de celui qu'elle va désigner finalement comme un blasphémateur. Vous voyez où ils sont arrivés. Messie, roi, fils de David à prophète, et bientôt blasphémateur. Donc, frères et sœurs, le dimanche des rameaux est une fête tragique, comme le sont souvent, bien sûr, les fêtes excessives. Le malentendu va durer tout au long de la semaine sainte, jusqu'au reniement, jusqu'à l'arrestation et l'exécution de Jésus hors de la ville sur le mont Golgotha. Mais ce malentendu, on le voit, et le fait même de Jésus, qui prend le risque de cette entrée triomphale. C'est lui qui décide d'effectuer ce geste prophétique. C'est lui qui assume l'annonce de la venue du Messie en sa propre personne. Oui, c'est effectivement lui qui assume l'annonce anticipée de la mort de ce Messie. Une mort incompréhensible dans le raisonnement de la foule. Et déjà les rumeurs, les cris de colère s'entendent dans la ville. Scandale, incohérence, contradiction. Le Messie, lui, est un vainqueur. Il ne peut pas mourir. Le Seigneur Tout-Puissant ne peut pas laisser faire une chose pareille. Car s'il existe, comment peut-il accepter la mort de celui-là même qu'il envoie pour sauver le monde? La fête des rameaux, chers amis, commémore bien cette entrée de Jésus à Jérusalem. Elle était très exactement la fête qui célèbre l'entrée du roi dans nos vies, dans le plus secret de nos vies. Ce Messie paradoxal, tout puissant, mais dont le royaume n'est pas de ce monde. Et en effet, c'est avec les yeux de la foi seulement, dans la repentance, que nous pouvons discerner et voir ce qu'il nous révèle en vérité. Et s'il y a une chose en ce jour du dimanche des rameaux, c'est est-ce que toi, tu as ouvert ton cœur, ta vie à celui qui est venu et qui revient bientôt en gloire. C'est avec le regard de la foi qu'il nous faut comprendre et accepter ce qu'est notre petitesse, notre finitude et le tragique de la mort lorsqu'elle nous guette. L'abjection de la souffrance quand elle nous écrase. L'horreur de la méchanceté des humains qui opprime. Et c'est avec les yeux de la foi qu'il nous faut saisir la présence de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Messie. Où précisément tout le monde autour de nous dit « bah, il n'est pas là ». Si Dieu existe, pourquoi tout ce mal, cette souffrance, ces guerres, ces famines? Ils nous disent, il a abandonné les hommes à leur malheur. Il a déserté le monde. Non, il est présent. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Mais son royaume s'y trouve mystérieusement présent. Telle est notre certitude, selon la parole. Et dans cette montée à Jérusalem, parce qu'il faut le monde descendre et ensuite remonter vers Jérusalem, la foule acclame Dieu en la personne de Jésus. Mais quel Dieu acclame-t-elle? Donc, les rameaux, c'est la fête du malentendu, du contresens. La foule veut une libération de la domination des Romains au prix du sang. Elle veut manger à sa faim. Elle veut la suppression des impôts. Elle veut la purification du sol de toute cette impureté païenne. Elle veut recevoir de Jésus tout ce dont elle rêve depuis des siècles, tout ce qu'elle croit avoir compris dans l'enseignement des prophètes. Libre, elle ne veut pas être libre du tout. À n'importe quel prix, elle crie « Béni soit le fils de David ». Vous voyez, la foule ne donne pas, elle attend qu'on lui donne. Jésus, c'est lui le prix qu'il va payer pour cette libération, qui est une libération tout autre que celle attendue. Et sa vie donnée quelques jours plus tard sur la croix, donnée volontairement, c'est la porte ouverte sur l'amour de Dieu, sur le pardon des péchés et le sacrifice de soi. Il vient visiter, revisiter les vies pour y déposer sa paix, cette réconciliation avec notre Créateur, parce qu'il est, lui, le prince de la paix. Bien sûr, Jésus sait bien de quel bois nous sommes faits. Et il nous voit, il connaît nos faiblesses. Il voit combien il nous est difficile, nous, de mener le combat de l'amour. Il sait que même si nous prenons un bon repas calorique, spirituel, le dimanche au culte, il sait que le lundi et le mardi, nous allons peut-être acclamer son royaume, mais arrivé le vendredi et le samedi, ce ne serait peut-être plus le cas. Le jour des rameaux, ce qui est posé, c'est un acte symbolique fort qui nous engage à notre tour dans ce combat pour la paix et l'amour à la suite de Jésus, fils de David, prince de la paix. Le Messie, humble et compatissant, fils du Père plein d'amour, que nous sommes invités à retrouver dans notre propre histoire, dans notre fragilité. Que répondez-vous à la question ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme pour toi ? Jésus, c'est Dieu lui-même, venu humblement comme un serviteur, sans rien cacher, pourtant, il faut que chacun le découvre en tant que tel. Et cette foule, décrite dans le récit biblique, ne croit que ce qu'elle voit. Elle veut encore toujours des signes, des guérisons, des miracles. Elle veut la fin de la souffrance, du malheur, de la mort. Et jeunes et vieux, tous attendent ce que Jésus ne leur donne pas. Lui, il vient monter sur un ânon, homme de paix, humble. Il vient dire à chacun, « Oui, je suis roi, mais le roi veut faire de toi son enfant. Oui, je suis roi, mais je suis aussi ton serviteur. Oui, je suis roi et je t'aime. Je t'aime jusqu'à la mort. Oui, je suis roi et je suis ton frère. Je suis le frère de celui qui a faim, de celui qui a soif, du malade, du prisonnier, de l'étranger, de celui qui vit dans la rue. Je suis le frère des tout-petits. » Alors, comme nous l'avons chanté, ouvrons les yeux de la foi et contemplons notre roi, adorons notre Seigneur et en toutes circonstances. Car il est entré dans nos vies. Il est entré dans notre vie, y compris là où notre foi se trouve peut-être mise en question, y compris là où la royauté du Christ semble mise en doute. Il est là, présent, mystérieusement vivant, et tout ce qu'il veut, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Tout ce qu'il veut, c'est régner dans ta vie et dans ma vie. Nous allons chanter un chant qui apporte la conclusion à ce message à travers les paroles de ce chant. Je vous invite à vous lever et chanter « Règne en moi, Dieu Tout-Puissant, règne en moi ».